c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Salut Laureline.
Salut Olivier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet épisode 38 de Tabibito. On va commencer par vous remercier de l'engouement pour notre précédent épisode sur les Ainu. À l'heure actuelle où on enregistre, donc le 19 mars, on est aux alentours des 400 écoutes, je dirais. Donc c'est vraiment super que vous soyez au rendez-vous pour cet épisode parce que nous, on était super excités de le produire. Donc c'est d'autant plus chouette qu'il vous plaise aussi.
Et alors aujourd'hui, on va changer de décor, on va quitter les neiges et les montagnes de Hokkaido pour te suivre, Laureline, à l'autre bout du Japon, à Kyushu. Et tu nous emmènes dans cet épisode à Kumamoto. Alors moi, ça m'intéresse énormément parce que je vais y passer lors de mon prochain séjour qui approche dans quelques semaines. Et je t'avoue qu'en fait, moi du coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses intéressantes à faire. Et donc c'est un peu la ville étape par laquelle je suis obligé de passer parce que sinon ça me fait trop de route et je la case un peu comme ville poubelle, donc je vais faire les deux trucs que tu trouves dans toutes les brochures partout, mais bah, en fait je vais surtout prendre comme tout le monde toutes tes adresses pour étoffer un peu mon planning parce que là je t'avoue que je suis un peu pauvre, je sèche un peu.
Ah bah écoute, moi ça m'étonne parce que Kumamoto, donc s'il faut savoir sur Kumamoto, alors tout d'abord c'est la ville de naissance de Eiichiro Oda qui est le mangaka derrière One Piece. Donc dans toute la préfecture de Kumamoto, vous allez retrouver des statues des héros de One Piece grandeur nature. Et la deuxième info, c'est qu'en fait depuis le tremblement de terre, donc en 2016, la ville et la préfecture en fait ont beaucoup investi dans le tourisme pour attirer les touristes japonais et internationaux. Donc il y a un super site qui est accessible en français, en anglais, en japonais, en quasiment toutes les langues, avec plein d'activités à faire. Et en fait, c'est très simple de trouver. Il te donne même des itinéraires. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les miens que j'ai faits moi toute seule.
Alors, tu étais restée combien de temps dans la ville et c'était quand que tu y étais allée ?
Alors, j'y étais restée 3 jours et c'était ma troisième ville après mon arrivée au Japon, donc en 2018. Et c'était début mars 2018.
Donc, pré-Sakura.
Oui, bah, c'était ça en fait. Quand j'avais fait mon voyage de 3 mois, je me suis dit, oh, j'y vais sur la période des Sakura, j'y vais pour 3 mois, je vais bien réussir à tomber sur une ville où je vais en prendre plein les yeux. Et en fait, au fur et à mesure de mon voyage, bah, ça fleurissait derrière, ça fleurissait devant, mais pas là où j'étais. Je commençais à être un peu dégoûtée. mais j'aurais réussi à les voir, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Pour en revenir à Kumamoto, je vais vous parler tout d'abord de l'auberge de jeunesse dans laquelle je suis restée. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, elle est réservée uniquement aux femmes. Donc, la gente masculine, malheureusement, vous allez devoir trouver ailleurs. Et je vais vous la recommander parce que voilà, je ne suis pas du genre à devenir toute foua quand il y a des trucs un peu cute. Et bah là, pour le coup, voilà, c'était en plein cœur. J'ai trouvé cette auberge jeunesse juste trop mignonne et elle est sur le thème de Ghibli.
Mmh.
Donc quand on passe la porte, il y a du parquet, il y a des portes coulissantes en bois à la japonaise. On est accueilli, je crois que j'étais accueillie par le gérant qui était vraiment très sympathique, qui m'avait montré un peu les alentours. Et vraiment, vous avez les petites lanternes, tu sais, genre que tu mets à Noël, en anglais on appelle ça les fairy lights.
Oui.
Les petites LED là comme ça qui pendent au plafond. Dans les toilettes, il va y avoir des lampes en carreaux en vitrail avec sur les murs des extraits de croquis, des films Ghibli.
Ah.
Dans la salle commune donc, qui est sur tatami avec une table basse, il y avait une grande bibliothèque avec plein de mangas, une armure de samouraï. Non, vraiment, c'était trop, trop chouette.
Ah.
Et le dortoir était tatami aussi avec des futons. Et vraiment, j'avais fait 3 super belles nuits. Et le clou du spectacle, c'était quand même la petite cuisine avec plein de petits objets trop mignons et un petit jukebox radio qui joue en continu les musiques des films Ghibli. Donc,
oh là là, ah ouais.
Je ne peux que vous recommander.
Ah ouais, génial l'ambiance.
Oui, vraiment trop trop choupi. Et pour finir, dans cette auberge de jeunesse, vous pouvez réserver pour faire un atelier de teinture. Et c'était vraiment super chouette parce que ça se passait donc au sous-sol. J'étais la seule qui avait réservé pour cette activité. Donc j'avais réservé pour faire un foulard. Donc le monsieur m'emmène et il me montre. Et il avait différents motifs qu'on pouvait reproduire sur le foulard. J'avais choisi, il me semble, les fleurs de prunier. Et donc, pour que la teinture se fasse, il faut dessiner le motif à la cire, teindre la pièce de tissu et ensuite enlever la cire. Et donc, le motif apparaît donc en négatif. Et, moi, j'avais fait ça. J'ai été super fière d'avoir créé cette pièce toute seule, d'avoir choisi les couleurs et le motif donc, et le placement. Donc,
En plus, c'est rare, les auberges de jeunesse qui proposent comme ça des activités en plus de l'hébergement.
Ouais. Faut réserver, je pense que c'est. Il me semble que c'était un surplus de paiement, mais c'était pas excessif non plus. Et ça fait une chouette activité. Il me semble que j'avais fait ça en début de journée pour après enchaîner sur autre chose.
Et donc, elle est située où dans Kumamoto ?
Alors, je sais plus si je vous ai dit le nom, ça s'appelle Nakashimaya. Et elle est située à l'écart du centre-ville, mais c'est un quartier résidentiel et populaire. Que je vous recommande de trouver une auberge de jeunesse ou un hôtel dans ce quartier-là, parce que c'est un peu loin de la foule du centre-ville. On est pour arriver au château, ça se fait très bien à pied. On peut très bien voir beaucoup de la ville depuis ce quartier-là. Et il y a plein de petits commerces, c'est assez vivant. Il y a le tram qui passe au milieu, donc c'était vraiment super chouette de rester dans ce quartier-là. Il me semble que même dans un bout de la ville, il y avait des petites statues de tanuki qui étaient habillées. Je pense qu'ils changent les vêtements assez régulièrement. Donc vraiment, c'était un quartier vraiment très sympathique à faire.
Bon, de toute façon, comme d'hab, hein, on va vous mettre la carte dans le descriptif de l'épisode. Et puis, ben, ma foi, il faudra juste zoomer et puis rechercher, si vous êtes un homme, un autre hébergement à proximité dans le quartier, du coup. Ou si vous voyagez
en couple,
voilà, en couple, ouais. Ok, donc en tout cas, si on n'est pas une nana, le quartier, il est quand même à privilégier.
Oui, qui d'ailleurs va être notre point de départ pour l'itinéraire sur notre première journée de balade, parce que je vous ai prévu un planning sur 2 jours. Si vous marchez vite, je pense que ça peut rentrer un ric-rac, je pense quand même, dans une journée. Moi, j'avais fait tout ça sur 3 jours, mais j'avais pris mon temps. Et donc, sur cette première journée de balade, on commence par ce quartier de Shinmachi. Et on va aller découvrir donc, les petits commerces dont je vous parlais, à commencer par un coffee shop.
Ah, oh, bah c'est étonnant.
Quelle surprise. J'étais tombée dessus par hasard. Alors, pour l'anecdote, j'avais trouvé les itinéraires, tu sais, à la japonaise, si vous lisez des shoujo manga. Pour tous, quand ils recherchent des idées de date, de rendez-vous galant, ça se trouve dans les magazines ou dans les offices de tourisme. Vous avez ces itinéraires qui vous donnent toute votre journée en pointillé avec toutes les étapes à faire pour que votre rendez-vous, votre journée soit parfaite. Et donc, c'était en suivant un de ces itinéraires que j'étais tombée donc, sur Gallery Coffee. Et ce qui m'avait plu, c'est que quand vous rentrez dedans, il y a tous ces grains de café verts qui sont dans des tonneaux avec les noms de la provenance ou le nom du café. Et donc, j'avais trouvé cette ambiance vachement chouette. Ça faisait un peu marchand à l'ancienne. Et puis, le staff était vraiment super sympathique. J'avais commencé à discuter avec eux. D'avant, je vais vous le dire, Kumamoto, c'est une des villes où j'ai fait le plus de rencontres spontanées.
D'accord.
Avec les locaux où j'ai parlé avec des gens comme ça quand j'arrivais quelque part et que j'entamais une discussion. C'était des amitiés vraiment éphémères, mais on m'a emmené me balader et découvrir des trucs que j'aurais pas trouvé tout seul. Quoi. Donc,
ah ouais, des gens détendus quoi.
Ouais, franchement, Kyushu de manière générale, je trouve que c'était super accueillant.
Eh ben, c'est très bien parce que c'est vrai que c'est une île où on n'a pas encore beaucoup d'épisodes, donc c'est très bien qu'on étoffe un peu tout ça. Et donc, coffee shop, petit arrêt le matin, pour déjeuner, t'as un truc à côté ou pas ?
Oui, il y a une petite boulangerie. Alors, j'ai pas trouvé la traduction, enfin la lecture du nom en japonais. Elle est rattachée à la boulangerie Angelus. Et le nom en japonais, donc c'est soit Matsuishi ou Shoseki, en fonction de comment vous lisez.
Ah oui, tu lis les kanji.
Voilà, mais comme quand j'ai pris ma photo, c'était pas noté les hiragana, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais on vous le mettra bien sûr sur la carte. Et il y avait plein de petits pains de plein de goûts différents, genre citrouille, fraise. Il y avait des coloquets aussi. Oui. Donc ouais, plein de petits trucs à grignoter de toutes les formes, de toutes les couleurs.
Ça j'aime bien, c'est bien. Salé, sucré, parfait.
Oui.
Et après donc tu nous emmènes où? Parce que bon, manger c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a à voir
Alors pour le coup, moi je vous conseille de suivre la rivière Tsuboi. Donc on est toujours dans ce quartier résidentiel, mais je sais pas, j'avais trouvé l'ambiance vraiment vraiment chouette, avec plein de petits trucs, plein de petits commerces comme ça pour se balader et juste admirer la vie locale. Et en continuant sur cette rivière, donc vous enjambez des petits ponts, il y a plein de petites façades choupies, rigolotes. En plus, l'année où j'étais allée, il y avait quelques travaux, donc on voyait certaines maisons qui, depuis, je pense, ont disparu, mais qui étaient un peu en mauvais état. Mais moi, je trouvais que ça avait du charme, forcément. Et pour se retrouver sur un sanctuaire qui s'appelle le Kitaoka Jinja. Et donc, j'ai recherché un petit peu l'histoire. C'est un des plus vieux sanctuaires de Kumamoto. Il a été déplacé plusieurs fois. Et donc, là où il est actuellement, il est en haut d'une petite colline. Donc, il y a plein d'escaliers. Mais à l'entrée, ce qui m'avait tout de suite subjugué, c'était les énormes et très, très grands camphriers qui sont mariés. Donc, vous avez une Shinenawa.
Ouais.
C'est ça?
Oui, la petite corde sacrée avec les petits éclairs en papier blanc.
Voilà, la petite corde sacrée qui les relie. Et alors apparemment, ce que j'ai continué mes recherches, et comme ce sont un couple marié, si vous souhaitez trouver l'homme ou la femme de votre vie, il y a un petit chemin à faire pour que vous puissiez trouver l'amour. Et alors si j'ai bien compris, donc le camphrier de droite est mâle, et le camphrier de gauche est féminin. Donc, si vous cherchez... Alors, c'est un peu dépassé comme oui. Façon de dire. Mais du coup, en fait, l'itinéraire est tracé sur une carte. Et donc, si vous êtes une femme, vous montez les escaliers, passez sur la gauche, donc du côté du camphrier masculin. Mais je suppose que ça peut s'adapter. Disons que si vous cherchez un compagnon, un partenaire masculin, vous commencez à la droite du tori. Vous passez devant le tori, vous montez les escaliers, vous passez sur la gauche du côté du camphrier masculin, vous faites le tour, vous redescendez, vous repassez avant le tori, vous vous inclinez et comme ça vous pouvez aller à l'hôtel. Et donc c'est inversement si vous cherchez un partenaire féminin. Commencez à gauche, tournez sur la droite, redescendre, vous inclinez devant le tori et remontez.
Ça commence à être compliqué parce qu'entre le sanctuaire et l'auberge de jeunesse, c'est chaud l'organisation.
Ouais. Ouais, non, mais oui, mais alors voilà, c'est comme ça, les petits rituels, il faut les suivre si vous voulez que ça marche.
Ça, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sanctuaires sur le mariage, le bonheur en couple, etc. Mais ça, j'avais jamais entendu.
Ouais, bah ouais, moi j'ai découvert ça là en faisant mes recherches. Je savais même pas sur le moment où j'y suis allée parce qu'en fait, j'étais tellement subjuguée par les arbres qui étaient vraiment mais immenses. Ils sont millénaires, donc en fait, ils ont eu le temps de pousser. Et l'hôtel principal, il est perché donc tout en haut de cette colline, et je sais pas, j'avais trouvé cet endroit mais tellement apaisant. On est un peu coupé de la circulation, du bruit extérieur, avec de nouveau des camphriers donc en haut. Et ouais, en plus j'étais sur une journée où il y avait un super beau temps, le soleil qui perçait à travers les feuilles. Non, vraiment, moi ce sanctuaire il m'avait marqué.
Ah ouais, ça devait être super chouette.
Voilà. Et le dernier petit arrêt, avant de vous retrouver au niveau de la gare JR de Kumamoto, c'est une petite boutique de wagashi que j'avais trouvée grâce à mon petit itinéraire, qui s'appelle Tomodachiya.
Ah, il est joli, le nom est très joli.
Oui, parce que Tomodachi, donc ça veut dire ami en japonais.
Donc c'est la boutique des amis, en fait.
Oui.
Ah, c'est mignon.
Bon, moi,
mignon.
J'étais seule, donc...
Bah, c'est normal, en même temps t'as pas fait le tour des camphriers, donc faut pas te plaindre hein.
C'est vrai, c'était ma faute. Mais ça paye pas de mine parce que donc la boutique est dans une sorte d'immeuble un peu bétonné comme ça. Et l'intérieur est vraiment tout petit. Vous avez le comptoir avec tous les wagashis à sélectionner, le matcha. Mais il y a des petites figurines un peu. Moi, il me semble que j'en avais eu un avec une tête de crâne. Vraiment sympathique. On sent que c'est une boutique qui a vécu. Moi, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Les pâtisseries étaient très bonnes. Je pense que j'en avais pris deux. J'avais pris un wagashi et un warabi mochi avec deux thés.
Bon.
Donc, j'avais pris mon temps.
Et puis, ça sent vraiment la petite boutique qui est tenue par des gens qui aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est chouette. Bien, bah, c'est déjà pas mal pour une matinée. Donc après, tu dis, en gros, t'arrives à la gare et le but, c'était d'aller un peu plus loin.
Le but, donc, c'est de profiter de la gare qui va être à l'effigie de Kumamon. Alors, Kumamon, c'est la mascotte qui a popularisé Kumamoto, qui est d'ailleurs Dijon, a récemment accueilli...
Oui, tout à fait. C'était très drôle de voir ce petit nounours faire le pitre pendant les discours officiels avec des élus français qui étaient là en mode « Mais je suis en train de parler au pupitre et il nous fait quoi l'ourson, là ?» à se trémousser, voilà, c'était très très drôle.
Bah, et Kumamon, c'est une des mascottes les plus populaires au Japon. C'est à travers elle que Kumamoto a promu tout son tourisme. Et dans la gare, vous avez une office de tourisme, vous avez une petite boutique avec Save Kumamoto, des pins, ouais. Des foulards, des tout ce que vous voulez.
Ça doit être à dégouliner de Kumamoto de partout, quoi.
Ah ouais. Ouais, partout. Et il me semble qu'une partie des bénéfices est reversée pour la reconstruction du château, d'ailleurs.
Ah oui, exact, ouais, j'avais vu ça, ouais. D'ailleurs, château qui a réouvert en partie depuis quelques temps.
Je reviendrai dessus parce qu'effectivement, il a été détruit pendant le séisme de 2016. De ce que j'ai lu, il est prévu qu'il soit en construction jusque 2038.
Oh !
Voilà. Parce qu'il passe par des méthodes traditionnelles, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Pour en revenir à notre balade, on va prendre le train pour aller se faire un petit jardin japonais qui s'appelle le Suizenji Jōjuen.
Alors celui-là, il est à mon itinéraire.
Ah, et ben, je le recommande. Franchement, c'était une super balade. Et en fait, il a été donc créé par la famille Hosokawa qui a régné en tant que daimyo sur la région de Kumamoto à partir du milieu du XVIIe siècle et pour 200 ans. Et il reproduit les 53 villages étapes de la Tokaido, donc la route traditionnelle qui reliait Kyoto et Edo. Et il y a même un mini, mais mini, hein, Mont Fuji.
Oui, avec toute cette petite herbe verte. La photo, elle est assez connue, elle tourne pas mal, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Il a l'air assez atypique, ce jardin, et puis très classique en même temps. Donc,
Oui, moi, il m'avait beaucoup plu. Il y avait un étang, il y avait des hérons, des carpe-coy, le petit Mont Fuji. Donc, on peut faire une balade en fait en cercle pour, je suppose, refaire les 53 étapes de la Tokaido. Et quand je suis arrivée à la fin de la boucle, je me suis posée dans la petite maison de thé pour avoir à nouveau un petit wagashi et mon petit thé. Et j'avais beaucoup aimé la vue où on voit le plus gros du jardin en fait devant et juste derrière l'étang. Anecdote, moi c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais allergique au pollen de cyprès japonais.
Mmh.
Parce que je m'installe. Il y a un coup de vent, et alors là, j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Mais tu sais, les larmes presque gluantes, et à tousser. Donc j'ai dû ruiner le moment détente de tout le monde. Parce que c'était vraiment une toux, mais agressive. Donc j'étais en train de m'étouffer, j'ai dû ruiner le moment de tout le monde qui était là.
Surtout que se moucher, etc., c'est pas forcément ce qui est le mieux vu au Japon, donc...
Bah ouais, en plus je comprenais pas, tu vois, ça m'était tombé comme ça d'un coup, et puis une demi-heure plus tard c'était parti, et en fait au fur et à mesure, comme ça m'est arrivé à plusieurs moments dans mon voyage, j'ai découvert que j'étais allergique au pollen. Mais c'est que au Japon que ça m'arrive.
Mais du coup, c'est pas mal pour une journée, parce qu'au final t'as pas trop couru, et t'as eu le temps de profiter des endroits, oui. C'est plutôt pas mal.
Ouais. Alors juste petite information, l'accès au parc est de 400 yens. Depuis le centre-ville, donc si vous prenez, il est accessible aussi en tram, ça va être 30 minutes. Depuis la gare de Kumamoto, vous devez ajouter, je pense, 10 minutes max. À côté du jardin, vous avez la première statue du manga One Piece dont je vous parlais. Donc, c'est Luffy qui est pas loin, là. Comme ça, je l'ai vu sur Google, mais je crois pas qu'elles étaient installées quand j'y étais. Donc, ça sera l'occasion aussi de le noter sur votre carte si vous êtes fan.
Bien. Et donc, ta première journée se termine, dodo. Et voilà. Le lendemain, qu'est-ce que t'as prévu ? Le château, quand même.
Bah oui, quand même. Alors, on en parlait précédemment. Il a été démoli en 2016 et en fait, la majorité des fondations et certains bâtiments ont été détruits. Mais il y a eu donc un gros projet de reconstruction avec des méthodes traditionnelles. Moi, à l'époque où j'y étais, je ne pouvais que faire le tour. Mmh. Il me semble, comme tu disais, actuellement, il doit y avoir un bâtiment où on peut rentrer dedans.
Ouais, je crois que ça doit être le donjon d'ailleurs.
Ouais, il me semble que c'est ça aussi. Ce qui m'avait super intéressé, donc il y a différents panneaux qui expliquent un peu l'histoire du château de Kumamoto. Ce qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait tout un champ de pierres. Et en fait, le panneau expliquait qu'ils avaient numéroté les pierres pour pouvoir les replacer exactement où elles étaient quand ils arrivaient au moment de les remettre dans le projet de reconstruction. Donc c'était assez intéressant. À voir parce qu'en fait, on se dit que ouais, il y a tellement de soins apportés à la reconstruction pour que ce soit les matériaux originaux avec des méthodes traditionnelles pour reproduire le château au mieux, au plus proche de ce qu'il était. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'avait le plus marqué aussi sur ce château, c'est que de tous les châteaux que j'ai visités, en général, on n'a que un donjon. Mmh. À Kanazawa, il y avait des ruines du mur, mais on devine très rarement en fait la taille qu'un château japonais.
Oui, de l'enceinte complète, quoi.
Voilà. Et là, effectivement, en fait, on a tellement de bâtiments qui sont là, et comme c'était sur une petite colline, en fait, puisqu'ils surplombent la ville, on se rend compte de la taille que c'était vraiment un château japonais, que c'est pas juste le donjon comme à Matsumoto, par exemple, qui est très beau, mais qui représente pas ce qu'était vraiment...
Ah ben oui, hormis la douve et le château, t'as plus grand-chose, quoi, effectivement. Oui, alors que là, t'as tout, t'as les tourelles, t'as les murs d'enceinte, primaire, secondaire, le donjon, la totale, quoi.
Voilà.
Et c'est vrai que du coup, moi aussi, j'ai envie d'y aller, même s'il est encore... Enfin, s'il est pas reconstruit, parce que comme tu le disais, en fait... Enfin, j'ai vu quelques photos du chantier, c'est vrai que ça a l'air impressionnant. Déjà, de voir les dégâts, tu ressens quand même la puissance du séisme aussi.
Ouais.
Et puis, effectivement, ouais, de voir la manière dont ils procèdent pour reconstruire, c'est juste hallucinant, quoi.
Alors, petite information, c'est 800 yens pour rentrer dans l'enceinte.
Bon, ça va, franchement, ça reste super correct parce que... Enfin, comparé à un prix auto actuel, ça doit être 5-6 euros l'entrée. Ouais. Va faire un château en France à 5-6 euros l'entrée. Voilà. Lève-toi tôt.
Et puis, de toute façon, c'est des yens qui seront donnés à la restauration du château. Donc,
bah oui, oui,
voilà.
Clairement. Alors, ça, c'est le château. Mais du coup, autour, tu me disais avant, quand on préparait l'épisode, qu'il y avait aussi un petit quartier qui avait été restauré.
Alors, restauré, non. On va dire plutôt reconstruit, imaginé. C'est une reproduction.
D'accord.
Artificielle de la ville au temps d'Edo qui était en fait à l'entrée du château. On sent que c'est une attraction touristique, mais j'ai pas ressenti que c'était non plus un attrape-nigo.
D'accord.
Donc, reproduction des maisons, mais qui sont pleines de restaurants. Il y a plein de restaurants, il y a plein de petites échoppes où on peut acheter plein de snacks, du thé au yuzu, des machins, des bidules. Il y a un musée qui reprend de façon interactive toute l'histoire de Kumamoto, donc je pense que c'est intéressant à faire. Vous avez aussi des performances. Moi, il me semble que quand j'étais venue, vous aviez les trois réunificateurs du Japon, enfin, trois acteurs qui représentaient...
les fantômes des réunificateurs. Putain, il est fort, ce Kumamon.
Ils n'ont pas encore fait les hologrammes et tout ça. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de petite place qui est abritée sous un préau avec des petits bancs. Et donc, c'est de façon assez facile et assez basique d'expliquer l'histoire de Kumamoto à un public jeune, qui peut être très jeune à moins jeune.
On sent qu'ils ont bien bossé quand même la manière d'accueillir les gens, quoi. Ça a l'air d'être super bien organisé.
Oui, et puis moi, c'était une visite que j'ai trouvée vraiment agréable. Je me suis pas sentie...
Oui, pigeon à Disneyland avec des ramen à 300 balles.
Voilà.
Parce qu'il faut que tu lâches tes yens et que t'es riche et que t'es étrangère, quoi.
Et puis tous les snacks, c'est des snacks traditionnels de la région de Kumamoto. Ouais, ambiance vraiment sympa. Il y a des familles. Il y avait, moi je me souviens, il y avait un petit chat qui était déguisé en... Donc avec son propriétaire qui était déguisé en samouraï, qui attirait les badauds et les photos. Donc non, vraiment, c'était assez sympa.
Donc ça, c'est vraiment à faire. Donc là, tu dis quoi? Une grosse demi-journée quand même entre le château, le petit quartier, tout ça. Quitte à manger sur place aussi.
Oui, parce que donc, comme je disais, donc, dans cette ville reconstituée qui s'appelle Sakura no Baba Josaien, il y a des restaurants, de quoi snacker. On peut continuer sur cette demi-journée pour aller voir deux musées que moi je vous conseille de faire. Le premier qui est le centre de l'artisanat traditionnel de Kumamoto, qui avait été vraiment un coup de cœur. Les expos permanentes sont gratuites et donc on peut y voir du travail sur métal, de la poterie, de la céramique. Et surtout, des objets folkloriques traditionnels en bois. Je me souviens, le ticket d'entrée était en forme de kijiuma. Donc le kijiuma, c'est un petit jouet en bois, un peu long comme ça, effilé, qui est à l'horizontale et qui représente des oiseaux.
D'accord, je ne connais pas du tout.
Et il y a une boutique où on a envie de tout acheter. Il y avait aussi un petit salon de thé. Moi, je me souviens, ce qui m'avait fait kiffer, c'est qu'on pouvait choisir sa tasse de thé. Donc, c'est des vraies céramiques,
pas
des petits gobelets en plastique. Et on peut choisir celle qu'on voulait dans le lot. Et moi, ça m'avait fait rire parce que quand j'ai visité toute la partie céramique et objets fragiles, dans les coins, dans les vitrines, il y avait des sismographes. Évidemment, je pense que... Parce qu'il y avait des vases qui faisaient à peu près ma taille, donc je fais 1m53, donc il y a des trucs assez grands. Donc je pense que, ouais, après le château, les mecs, ils se sont dit, on va en foutre dans toutes les vitrines pour être sûr, si jamais il y en a un qui bouge, qu'on soit là pour aller les choper.
Bon, autant le château, on pourra pas rattraper les pierres, mais bon, la vaisselle, il y a encore moyen, quoi.
Voilà, on pourra peut-être encore sauver la vaisselle.
Donc ça, c'était un premier musée à côté. Et tu m'as parlé aussi d'un autre musée.
Oui, alors j'étais passée devant sans vraiment savoir ce que c'était. En fait, c'est un monsieur à l'entrée qui m'a fait signe. Et c'est une branche du musée préfectoral de l'art. Et il se trouvait que cette journée-là, c'était des étudiants en art qui, pour clore, je ne sais plus si c'était leur master ou leur licence, ils exposaient leur dernière toile.
D'accord.
Donc l'entrée était gratuite et ouais, vraiment, j'avais beaucoup aimé juste de voir le résultat de travail d'artiste en devenir. J'avais passé un bon moment et puis c'était agréable comme ça que quelqu'un me fasse coucou pour dire « Ah bah vas-y, rentre, ils font ça ». Donc il me semble que certaines galeries vont être gratuites et d'autres, bien sûr, avec des expositions payantes. Mais si vous avez le temps, voilà, allez jeter un œil, voir si... Il y a quelque chose qui vous tente.
Bien, 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 tout ça. Toujours pas de sanctuaire aujourd'hui. T'as un truc à proposer?
Si, si, j'ai un premier sanctuaire à vous parler. C'est le sanctuaire Kumamoto-jo Inari Jinja. Et donc, qui est dédié au Kami Inari. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que c'est un des sanctuaires les plus colorés. Donc, l'autel principal, donc sur les parties hautes, c'était décoré donc en fond jaune, vous aviez les marteaux, des fleurs de plein de couleurs pétantes, avec plein de mini-autels, puisque Inari, à la base, c'est le kami de la moisson, sauf qu'en fonction des régions et des locaux et des localités, en fait, on lui donne d'autres pouvoirs. Donc il y a plein de petits hôtels comme ça en fonction de ceux que vous voulez souhaiter.
T'as des petits tunnels de Tori aussi ou pas?
Oui, des petits tunnels de Tori, mais c'est un sanctuaire vraiment tout petit. Il est au niveau parce que donc Kumamoto, je vous disais, est sur une colline en hauteur, donc lui il était plutôt en bas, il y avait un parking juste devant et c'était en travaux, donc j'ai pas eu vraiment l'ambiance totale, mais moi j'avais beaucoup aimé toutes ces couleurs parce que c'est pas, ça arrive pas dans tous les sanctuaires en fait que le bâtiment principal et autant de couleurs et de motifs de décoration. Donc moi, je l'avais trouvé super chouette.
Donc ça fait encore une belle matinée bien remplie.
Oui.
Clairement, ouais, tu disais quand même, enfin on n'a pas encore fini, mais faire en une journée, c'est tendu quand même. Hein. Donc 2 jours, c'est
oui,
bien.
Hein.
Ouais, non, 2 jours, c'est bien.
Oui.
Et donc bah, pour la dernière après-midi, t'as prévu quoi alors ?
Eh ben, je vous emmène donc dans le centre-ville, qui est donc à la sortie du quartier du château. Vous passez par-dessus la rivière principale et vous arrivez dans le centre-ville, où là, ça grouille de monde, de salariés, de gens qui vont au boulot, qui sortent du boulot. Et il y a donc une shotengai qui s'appelle Kamochidori, où là, il va y avoir de part et d'autre plein de petits commerces, des petites boutiques de vêtements, des petits restaurants, des petits cafés, et ça grouille de monde, ça grouille de vie. Moi, je vous recommande d'y aller vous perdre et d'y aller comme ça, voir juste ce qu'il y a, quoi. Parce que il y a vraiment... Moi, c'est... Voilà, c'est Kumamoto, c'est une ville où vraiment j'ai beaucoup aimé l'atmosphère générale qui se dégage.
Le côté vie quotidienne qui était sympa, quoi.
Ouais. Et c'est une ville qui se fait facilement à pied. Donc, moi, ça a été un coup de cœur. Donc, j'espère que ce sera pour toi aussi, Olivier, quand il s'y ira. Et pour le coup, j'ai 2 cafés à vous recommander. Le premier que j'avais fait, qui s'appelle End, A-N-D Coffee Roaster.
Mm-hmm.
C'était le premier où j'étais. Et en fait, j'avais commencé à papoter avec la barista. Et il se trouvait que le lendemain, il faisait un coffee tasting, donc une dégustation de café. Donc, j'y suis retournée le lendemain. Ils avaient invité des clients réguliers. Et en fait, il se trouve que j'ai commencé à papoter avec une jeune fille qui parlait français parce que en 2016, donc on était en 2018, je vous le rappelle, elle avait vécu à Bordeaux. Et alors moi, je me dis, Bordeaux, café de spécialité. Je fais, ah, oh, mais tu connaîtrais pas mon amie Ah mais si, si, elle me servait quand j'étais à Bordeaux, donc en plein Kumamoto.
Ah, c'est excellent.
J'ai trouvé quelqu'un qui connaissait une pote à moi.
Ah, c'est
donc,
excellent.
Voilà. Et cette jeune fille, elle m'a emmenée un peu plus tard parce que quand j'y étais, une de mes missions, c'était de trouver un CD de Wham, parce que je suis une grande fan de Wham et de George Michael. Et il se trouve que sur certains CD à l'époque, il y avait toujours une piste spéciale pour les Japonais.
Wow.
Donc je m'étais mis en tête de faire tous les magasins de CD d'occasion pour retrouver les albums en double, parce qu'il en fallait un pour moi et un pour ma tante, qui est aussi une grande fan, qui m'a transmis le virus. Et donc, cette jeune fille, je lui ai demandé, tu sais pas où est-ce que je pourrais le trouver ? Donc, elle m'a emmené chercher mon CD que j'ai pas trouvé, mais elle m'a emmené dans l'autre coffee shop dont je vais vous parler, qui s'appelle Gluck Coffee Spot. G-L-U-C-K. Et j'ai beaucoup aimé ce café, juste pour l'ambiance, parce que c'est dans une vieille bâtisse à l'ancienne, tout en bois. Et l'atmosphère dedans était vraiment, vraiment super chouette, avec des tables au niveau principal et même à l'étage aussi. Il y a de quoi snacker un petit quelque chose chaud et salé. Donc c'était une super découverte, donc j'étais contente qu'elle m'ait emmenée là.
Bah écoute, avec 3 adresses, pas d'excuse pour prendre un café dégueu dans un distributeur automatique.
Hein,
on va s'arrêter dans un bon petit coffee shop et puis prendre un café bien préparé.
Et pour finir cette journée, avant de vous emmener dîner, je vais vous parler d'un deuxième sanctuaire sur lequel, comme d'habitude, si vous nous écoutez, moi je tombe en général sur les torii, je les trouve super cool et je me dis, toi, je vais revenir quand j'ai l'occasion. Et donc ce sanctuaire s'appelle le Tedori Tenmangu. Et donc, comme tous les sanctuaires Tenmangu, il est dédié au kami des études et du succès dans les études, qui s'appelle Sugawara Michizane. Et ce sanctuaire, il est minuscule, il ne paye vraiment pas de mine, mais il est coincé dans une minuscule ruelle. Au moment où j'étais, donc, les arbres étaient en fleurs. Et pareil, un peu coupé de la vie quotidienne à l'extérieur, avec ce grand tori qui est coincé entre 2 immeubles et qui signale l'entrée. C'était juste un peu magique de tomber dessus comme ça.
Un peu improbable aussi, quoi.
Voilà, qu'il apparaît un peu comme ça au milieu de la vie grouillante.
Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal de finir la journée comme ça, à vadrouiller dans les petits quartiers. Moi, j'aime bien aussi. C'est vrai que tu t'imprègnes un peu de la vie locale et puis tu découvres plein de petites choses sans forcément te dire « je vais aller là, je vais aller là ». C'est plutôt chouette. Et puis par contre, on n'a pas trop parlé resto. Est-ce que tu aurais un truc ?
Oui, alors j'ai deux recommandations pour la soirée. Je vais tout de suite vous prévenir, c'est des donc c'est un restaurant de sushi et un bar où il n'y a pas de menu en anglais, il va pas y avoir de photos ni quoi aux caisses. Donc ça sera pour ceux qui auront le courage de s'y pointer, d'essayer de baragouiner du japonais.
Ouais, mais si les mecs peuvent rentrer, c'est déjà mieux que l'auberge, hein.
C'est déjà un peu plus ouvert comme milieu. Le restaurant de sushi s'appelle Nidaime Sushi Naniwa. Et pareil, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé. Il me semble que c'est la jeune fille du tout premier coffee shop dont je vous avais parlé. Et j'y suis allée, j'ai passé la porte. Donc c'est une porte coulissante en bois japonais. J'ouvre et je vois une salle qui est quand même assez minuscule. Il y a quoi 4 tables et tous les habitués au bar. Donc le restaurant était quasi vide. Tous les habitués au bar, et là, la conversation se tait. Silence, parce qu'ils me voient tous. La gaijin arrivait avec mon sac presque backpack, tu vois, en se disant...
Mais qu'est-ce qu'elle fout là?
Oui, elle s'est perdue, c'est pas possible. Et puis effectivement, je me rends compte qu'il n'y a pas de menu écrit, c'est toutes les petites plaquettes en bois qui sont juste au-dessus du bar, avec le chef qui est juste derrière et qui sert ses réguliers. Et donc, je m'installe à côté d'un monsieur... Je regarde en haut en tentant de déchiffrer, en faisant appel à tout ce que je peux. J'essaie de regarder ce que les autres gens à côté de moi, ils ont. Et vraiment, j'y arrive pas. Donc, je prends mon courage à deux mains. Je me tourne vers le monsieur qui est à côté de moi. Je lui dis, excusez-moi, je parle japonais, mais je le lis pas très bien. Est-ce que vous pouvez me recommander quelque chose du menu ? Et donc, le monsieur, on commence à papoter. Il me demande d'où je viens. Et donc, il demande au chef, ah, vas-y, sers-lui ça. Je pense que j'ai testé... Des trucs
qui étaient peut-être à peine sur la carte aussi.
Oui, et puis c'est surtout des trucs que j'aurais pas commandé parce que ça doit être des intestins de quelque chose. et je suis pas très ABBA, tu vois, de manière générale. Très ABBA, le groupe suédois, mais les ABBA de dedans les animaux, je suis pas très fan.
Mais c'était bon.
C'était super bon. C'était plus cher parce que les sushis étaient vraiment super frais et faits devant vous, en fait. Mais c'était vraiment une belle rencontre et ça fait partie de mon expérience à Kumamoto d'être rentrée comme ça.
Oui, puis au final d'être accueillie et puis d'être accompagnée, quoi.
Voilà, mais vraiment, effectivement, il faut pouvoir parler japonais parce que, pour vous faire comprendre, en fait, et puis pour faire ressentir aux gens que vous n'êtes pas là juste...
Pour prendre un selfie avec votre tranche de poisson, quoi.
Voilà. Donc ouais, franchement une super ambiance si vous y allez de manière honnête. Et donc il se trouve que c'est ce monsieur à côté de moi qui me dit une fois qu'on finit, écoute, je voulais aller au bar là à côté, tu viendrais pas avec moi ? Mais un monsieur qui devait avoir dans la quarantaine, tu vois.
D'accord.
Et donc là j'ai mes warnings de françaises région parisienne qui font n'y va pas, c'est mort, non. Et je prends mon courage à deux mains, je fais allez ok. Prête à courir, tu vois, au moindre souci. Il me fait traverser la rue et il m'emmène dans un bar qui s'appelle Shage. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aurais pas trouvé toute seule parce que c'est dans un immeuble. Il me semble qu'à l'étage, ça doit être des appartements ou autre chose, mais vraiment la façade quasi nue. Et une fois passé la porte, c'était assez impressionnant parce que j'avais l'impression d'être retombée dans le temps. Donc le barman était... avec la chemise et le waistcoat.
Ah oui, vraiment l'ancienne, quoi. Pas l'uniforme, mais oui, la tenue, tablier, etc.
Ouais, avec toutes les bouteilles adossées au mur juste derrière lui, avec la
lumière
qui filtrait derrière. Les petits genres d'alcôves comme ça, où les gens, s'ils venaient à plusieurs, ils pouvaient s'y mettre. Et donc, pareil, on s'attable et le monsieur dit « qu'est-ce que tu voudrais boire ? Qu'est-ce que t'aimes boire ?» Je sais plus, à un moment de la conversation, je lui avais dit que j'étais barista et que je bossais dans le café. Donc, il fait « Oh, donc il demande à un barman un cocktail au café pour moi et tout. » Donc, je me sentais un peu zarbi, tu vois, d'être avec cet homme complètement étranger. Mais je sentais vraiment qu'il voulait juste me faire découvrir un truc à lui, local, pour me faire découvrir quelque chose, quoi.
Oui, pas le côté malsain avec une vieille idée derrière de pervers. Quoi.
Voilà, donc vraiment c'était une super ambiance, c'est des souvenirs incroyables de mon passage à Kumamoto. Donc pareil, allez-y si vous parlez japonais, parce que pareil, il n'y a pas de menu. Mais voilà, c'était mon expérience à Kumamoto et moi j'ai voilà, je le dis, je le redis, j'ai des souvenirs magnifiques de cette ville, donc j'espère que ça te plaira aussi, Olivier.
Bah écoute, en tout cas, c'est bien passé. Ça me fait presque regretter de ne rester qu'une journée, mais bon, je me dis que du coup, ce sera sûrement l'occasion d'y retourner. En tout cas, ben voilà, ça donne envie une fois de plus.
Cool. Et bien sur ce, je pense qu'on a bouclé notre partie découverte et on va passer à notre section coup de cœur. Allez, c'est parti.
Jingle.
Jingle. Et nous revoici donc dans cette section coup de cœur. Et comme c'est moi qui ai bien papoté, c'est à toi, Olivier, que je vais demander de nous parler de ton premier coup de cœur de ce mois-ci.
Oui, alors je te le montre à la caméra. Mon coup de cœur, c'est un livre aux éditions Omake Books qui s'appelle « Les 1000 plus beaux paysages du Japon ».
Ah oui, j'ai vu. Je l'ai vu passer sur Instagram. Il me semble que c'est Julien des Sakura qui en avait parlé,
ah,
c'est ça ?
De la balade du Sakura, c'est possible.
De la balade du Sakura, oui.
C'est possible parce que c'est vrai qu'il est un peu comme moi, féru de livres pour préparer ses voyages. Alors c'est vrai que c'est un livre qui coûte quand même assez cher, 39 euros. C'est ouais. Un beau petit pavé qui est bien épais.
Oui.
Mais franchement, c'est très très chouette. Alors il y a très peu de texte. En fait, vraiment, le parti pris, c'est de dire on met que des photos. Donc il y a beaucoup beaucoup de photos, beaucoup de belles photos. Et il y a un petit encart sur le côté avec une légende, un numéro qui localise en fait le lieu sur une carte. Et en fait, c'est trié par région du Japon. Et tu as pour chaque région des spots insolites, des vues, des jardins, des festivals, des lieux pour admirer les fleurs. Tu peux avoir des ponts, des spécialités naturelles. T'as vraiment plein plein de choses. Toujours un gros, très orienté nature. Cascade, beaucoup de choses. Et puis évidemment sanctuaire. Enfin voilà, donc t'as forcément milieu, il y a largement de quoi faire. Et moi, j'aime bien en fait le parcourir en me disant, bah, justement, en plus, comme le JR Pass est devenu super cher, tu prends un peu plus le réflexe quand tu prévois tes voyages au Japon en te disant, bah, je ne vais pas courir partout, je vais prendre une région et je vais la faire peut-être plus à fond que si j'avais pu aller à l'autre bout du Japon pour pas cher. Et justement, ce livre, il est super parce que tu localises rapidement ce que tu as à faire et bah, tout est pré-mâché, tu as une carte derrière. Et puis en fait, bah, t'accroches à la photo et tu te dis, ben ouais, j'aurais pas forcément pensé à ça. J'ai jamais entendu parler de ce lieu, mais go quoi. Et voilà, donc c'est aussi mortel parce que forcément, sur les 1000 photos, tu as 3 milliards de, de lieux que tu veux voir et tu te dis, bah, il me faut 10 voyages pour faire un dixième de ce que j'ai vu dans le bouquin.
Ouais, ça te donne l'envie de faire mille et un voyages, du coup.
Ouais, et c'est vrai que tu te dis, ouais, le Japon, sur ce côté-là, c'est vraiment comme la France, c'est que chaque région est particulière, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc t'en as pour toute une vie, quoi.
Cool. Eh ben, ça donne envie.
Et toi, du coup, tu nous as choisi quoi ?
Eh bien, moi, je pense que ça va être notre premier restaurant qu'on vous propose.
Ah, oui, tiens, on n'a jamais fait encore.
Alors, il me semble que Morgane nous avait parlé d'un restaurant sur Kyoto.
Ah oui, c'est vrai.
En parallèle avec un livre. Mais ça va être notre premier restaurant. Il est situé à Paris, ça s'appelle Zakuro. Et il me semble que c'est toi, Olivier, qui m'en avais parlé la première fois.
Oui, il est trop bien.
Voilà, donc c'est dans le deuxième. Moi, j'y étais allée avec des amis un coup que j'étais de passage. Et il faut réserver parce que c'est une toute petite cantine. Et il doit y avoir, il me semble, 3 tables et quelques sièges au bar. C'est tenu par une mère et son fils, et c'est une cuisine maison, en fait. On se dit japonais, sushi, les tempura, les machins. Non, là, c'est du curry, il doit y avoir peut-être des tempura, mais c'est un menu très restreint. Mais c'est fait avec amour, c'est fait sur place. Donc, en fait, le bar, il entoure la cuisine, en fait. Donc, on voit ce qui se passe. Des très bons desserts aussi, il me semble que j'avais testé. C'était quoi que tu m'avais recommandé la dernière fois ? La panna cotta au matcha.
La panna cotta au matcha. Excellent.
Ah, c'était bon. Voilà. Et ils ont aussi des sakés. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Moi, j'avais passé un super moment. Il y avait une super ambiance dans ce petit restaurant. On sentait un peu cosy, un petit bout du Japon vrai. Tu vois, on a l'impression de toucher l'authentique. Donc, je ne peux que vous le recommander. On avait super bien mangé. Ouais, c'était une belle découverte. Merci Olivier, donc du coup on vous transmet aussi l'information.
Et puis c'est vrai qu'ils sont très chaleureux aussi et tu te sens bien avec eux aussi, au-delà de ce que tu manges.
Oui, Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. On espère qu'avec tout ça, on vous donne envie d'aller visiter Kyushu, parce que vraiment, ça vaut le détour. Et on se retrouve donc le mois prochain. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur Instagram, à nous laisser des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous joindre par mail à podcast.tabibito@gmail.com. Il me semble que je n'avais pas fait ces annonces depuis longtemps, donc on se rattrape pour tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui nous ont rejoints dernièrement.
Et comme toujours, ne soyez pas vexés, on vous répondra dans un délai de 3 à 4 mois si tout va bien.
À très bientôt.
À très bientôt.